Vous êtes sur RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Christophe Paco. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 et comme tous les soirs, on vous informe, on vous accompagne. Sphère avec à la une ce soir, pas moins de 100 communes privées d'eau potable en cette période de sécheresse exceptionnelle, d'où la réunion d'un comité interministériel en urgence décidé ce matin par la première ministre Elisabeth Borne. Bilan étape, anticipation, solution, aide, entraide. On en parle évidemment avec nos invités ce soir et notamment Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire, qui sera notre invité aux côtés de Virginie Garin, spécialiste de la qualité de la vie ici à RTL, puisqu'il y a des restrictions pour les personnes, comme pour l'environnement et notre agriculture, bien sûr. L'agriculture, la météo, pour nous tous, c'est avec Valérie Quintin, comme tous les vendredis soirs, vous êtes avec nous, oui. C'est un plaisir Valérie. Malgré les gros orages en cours au centre de la France, la sécheresse, malheureusement, perdure Valérie.
Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie à venir. Alors c'est vrai qu'on a de gros orages actuellement dans le sud du Massif central, sur les hauteurs du Gard, de l'Hérault, mais également en Isère ou encore dans les Savoies. Mais comme toujours, ce sont des trombes d'eau qui tombent d'un seul coup et ça glisse finalement sur le sol, donc ça ne s'imbibe pas du tout. Partout ailleurs, c'est dégagé. Ça le sera demain toute la journée et on aura juste quelques orages en montagne, dans les Alpes et les Pyrénées en fin d'après-midi. Notez que le Mistral soufflera encore fort demain jusqu'à 60 km/h en pointe et on aura un petit vent de nord sur le reste du pays, ce qui va permettre aux températures de baisser un petit peu. 10 degrés à Rennes au réveil demain matin, 16 à Limoges, 25 quand même à Perpignan. Demain après-midi, comptez 24 à Lille, 26 à Paris, 28 à Nantes, 29 à La Rochelle, encore 33 degrés à Toulon et 35 à Montpellier.
Météo en fil rouge ce soir avec vous, Valérie Quintin. Et puis le coup d'envoi de la première journée de Ligue 1, c'est pour ce soir avec Lyon-Ajaccio à l'affiche. À suivre bien sûr dès 20h sur RTL. Avec un invité pour parler de préparation physique ce soir, c'est Martin Bouchaïd, parce que cette saison va être particulière. Saison scindée en deux pour cause de Coupe du Monde en plein hiver. Et déjà un grand absent pour l'ouverture de cette longue saison, Kylian Mbappé, blessé aux adducteurs. Et puis à suivre, comme tous les soirs, RTL Soir, 7 jours, 7 reportages. On partira à Val d'Isère avec Vincent Serrano. Les stars qui sont sur la Côte d'Azur, après Elton John notamment, eh bien c'est Patrick Bruel qui s'installe souvent à Ramatuel, tout près de Saint-Tropez. Nous y serons. Sans oublier, bien sûr, laissez-vous tenter de l'été juste avant 19h. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Soir.
Le journal Christophe Paco.
Plus d'une centaine de communes en France, donc aujourd'hui, n'ont plus d'eau potable. C'est ce qu'a annoncé ce midi le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a même qualifié la situation en cette période de grande sécheresse d'historique. Comme Elisabeth Borne d'ailleurs, la première ministre, qui a réuni et activé ce matin une cellule interministérielle de crise. Bonsoir à vous François-Xavier Lambert.
Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous.
Et vous avez fait pour nous, pour RTL ce soir et pour vous tous, un tour de France et visiblement c'est tout le pays qui est concerné.
Et oui, quasiment. On commence dans le centre-est avec la Haute-Loire où nous allons dans le village du Boucher Saint-Nicolas qui vit au rythme des coupures d'eau. L'une des auberges est tenue par Fabien. Pour cuisiner ou même faire un café, son chef a dû passer à l'eau en bouteille.
Le matin, donc on voyait effectivement si on avait de l'eau. Si on n'en avait pas, ben on faisait nos cafés avec de la cristalline. Au niveau de la cuisine, et ben, il prenait de la cristalline ben, pour pouvoir laver ses légumes, sa salade, pour pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions.
Et ce soir, 62 départements sont considérés en crise. Le niveau d'alerte le plus élevé. L'état de catastrophe naturelle est reconnu dans deux nouvelles communes situées près de Toulouse, Tournefeuille et Cesse. Et pourtant, dans l'ouest du pays, on continue tranquillement de laver sa voiture.
Parce qu'il y a du sable dessus et malheureusement, je ne peux pas la nettoyer à la main parce que j'ai peur d'oreiller la peinture. Et je vais mettre juste un petit euro qui dure une minute, juste de quoi la rincer. Et comme on est en vacances, on n'a pas les outils qu'on a à la maison.
Vous vous sentez pas, entre guillemets, un peu coupable ?
Non.
Et nous continuons notre tour en Auvergne. Les habitants du village de Bors-Saint-Georges n'ont eux aussi quasiment plus d'eau au robinet. Le maire de la ville s'est pourtant renseigné sur la possibilité d'utiliser les nappes phréatiques qui sont pleines, mais impossible de les utiliser car l'eau vient d'être analysée, elle est radioactive.
On n'a pas le droit d'utiliser cette eau parce que des scientifiques ont décrété qu'il y avait plus de cancer du sein et du cancer de la prostate que dans les autres secteurs. Ce qui sort du robinet aujourd'hui, c'est un simple filet d'eau. Donc pour prendre une douche, c'est compliqué.
Et puis autre information ce soir, le cours d'eau l'Isère est placé au niveau de crise sécheresse, ce qui entraîne des restrictions d'eau et l'interdiction d'irriguer les cultures. Avec la quatrième vague de chaleur attendue la semaine prochaine, la situation sera encore plus critique selon le président de l'Union nationale des producteurs de pommes de terre.
Merci pour ce dossier très complet, François-Xavier Lambert. Je me tourne maintenant vers Virginie Garin, spécialiste qualité de la vie d'RTL. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Inquiétude du gouvernement, on l'a entendu, qui succède aux craintes notamment des agriculteurs, des entreprises et bien des maires, hein, comme vient de l'expliquer François-Xavier à l'instant. On sait que cette sécheresse, déjà, c'est le point de base, hein, finalement, c'est le point d'ancrage. C'est la sécheresse la plus importante, Virginie, depuis 1976, qui ait connue la France. D'où ce besoin impérieux de prendre des mesures à la hauteur de cet épisode exceptionnel.
Alors, il y a eu un comité interministériel aujourd'hui, mais les décisions, elles vont être locales. Chaque préfet va prendre des décisions en fonction de chaque situation. Le plan ORSEC pourrait être déclenché, par exemple, avec l'armée, la sécurité civile, qui pourront approvisionner les habitants avec des citernes, des bouteilles, des petites stations de traitement. Il est même prévu, s'il n'y a pas de solution possible, d'évacuer éventuellement des populations. Les préfets qui vont sans doute exiger des restrictions supplémentaires, hein, donc, par exemple, interdire de laver sa voiture, d'arroser son jardin, c'est déjà le cas dans une soixantaine de départements. Vous imaginez que si ces exemples de communes qui n'ont plus d'eau du tout se multiplient, arroser les golfs et les terrains de foot va devenir difficile.
Ouais, ça c'est sûr. Restriction en tout cas, département par département, c'est utile, hein, à retrouver sur un site qui a été mis en place, c'est le site propluvia.gouv.fr ou sur artel.fr, on vous donne le lien. Et précision d'importance, Virginie, quand même, avant de recevoir notre invité ce soir, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, notre consommation d'eau, à titre personnel, j'aimerais bien avoir, je sais pas, par rapport aux entreprises, à l'agriculture. Combien consomme un être humain aujourd'hui dans sa vie de tous les jours ?
Alors, on consomme à peu près 150 litres chacun. Ça représente 20% de l'eau potable en France quand on tourne notre robinet. Alors, c'est moins effectivement, par exemple, que les centrales électriques qui utilisent, elles, 30% de l'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires. Et l'agriculture est la principale consommatrice, mais derrière, eh bien, ça nous permet de manger. Donc, indirectement, les ménages consomment beaucoup plus d'eau dans les produits alimentaires qu'ils achètent. Et puis, par exemple, aussi dans les textiles. Les vêtements sont l'une des industries les plus consommatrices d'eau. Acheter souvent des vêtements, Christophe, c'est gaspiller de l'eau.
C'est gaspiller de l'eau, oui, c'est sûr. À tous les niveaux, il faut faire attention à cette fameuse guerre de l'eau qui est déclenchée depuis un certain temps. On en parle souvent avec vous, hein, Virginie Garin, sur RTL.
Christophe Pacaud, l'invité d'RTL Soir.
C'est le ministre de l'Agriculture, la Souveraineté justement alimentaire qui est avec nous. Virginie, vous restez avec nous pour accueillir Marc Fesneau. Bonsoir à vous, monsieur.
Bonsoir.
L'annonce de la Première Ministre ce matin, en tout cas, semble faire l'effet d'un électrochoc un peu partout. L'annonce la plus importante, ce sont ces 100 communes. Aujourd'hui, on ne le savait pas, qui sont privées d'eau potable. Il était donc grand temps de tirer la sonnette d'alarme.
Bah, il fallait peut-être une prise de conscience. Alors, c'est des natures de communes qui sont différentes. Certaines, on voit leur forage complètement à sec. D'autres ont besoin de mettre des mesures de restriction qui sont très fortes. Et par ailleurs, comme ça vient d'être très bien dit dans vos différents reportages, il y a besoin de faire en sorte d'anticiper, puisqu'il n'y a pas de pluviométrie significative qui est annoncée, et d'anticiper, d'où l'activation de la cellule interministérielle, d'anticiper les 15 jours ou 3 semaines où on n'a manifestement pas de grande pluviométrie annoncée, et donc d'anticiper dans les communes et aussi pour les autres nécessités d'eau, je pense à l'agriculture, les choses.
Bien sûr. C'est une prise de conscience, on ne va pas dire tardive, parce que depuis un petit moment, c'est le troisième épisode caniculaire. Il y a le caractère d'urgence, de gravité, ça nous fait un petit peu peur. Il y a un petit côté anxiogène depuis ce matin, monsieur le ministre.
Non, il n'y a peut-être pas à avoir l'anxiété, mais en même temps, c'est bien de décrire la réalité telle qu'elle est. À vrai dire, les choses avaient été anticipées. Nous étions avec Christophe Béchu dans les Alpes-de-Haute-Provence depuis le mois de février-mars, le barrage sur lequel on était, le ministre de l'Environnement, le barrage hydroélectrique sur lequel on était, a peu produit d'énergie, voyant que la pluviométrie avait été très faible cet hiver, pour garder des réserves, pour par exemple pouvoir irriguer ou pour pouvoir assurer l'alimentation en eau potable. Donc il y a des choses qui ont été anticipées depuis des mois. Simplement, là, on est au cœur de la crise et donc sans doute que ça permet une prise de conscience générale des uns et des autres, à la fois de nous tous, citoyens, des agriculteurs aussi, mais qui sont déjà à l'œuvre pour essayer de limiter au maximum les besoins en eau.
Au cœur de la crise, vous l'avez dit, Virginie Garin l'a rappelé tout à l'heure, et pour l'agriculture, on n'arrête pas de l'évoquer, de le rappeler sur RTL, Virginie, avec vous. Il y a plus qu'urgence, on est d'accord.
Alors, les éleveurs disent qu'ils sont dans une situation critique, ils n'ont plus d'herbe, ils doivent puiser dans leurs réserves de fourrage, mais comment feront-ils cet hiver ? Les producteurs de maïs sont inquiets parce que la récolte sera mauvaise et la moitié sert à nourrir le bétail. Les vaches, quand il fait chaud, font moins de lait. Les rendements peuvent chuter jusqu'à 30%. Donc, tous les secteurs sont impactés. Alors, monsieur le ministre, en 1976, Jacques Chirac, qui était Premier ministre, avait réquisitionné l'armée et la SNCF pour transporter de la paille aux éleveurs. Est-ce qu'on pourrait en arriver là aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut aider les agriculteurs ?
Alors, on n'en est pas là à date, parce que comme vous l'avez très bien décrit, pour l'instant, les agriculteurs, les éleveurs puissent dans les stocks qu'ils avaient constitués pour cet hiver au printemps, ou des stocks qui leur restent de l'année dernière. Mais évidemment, on va évaluer dans le mois d'août et au début du mois de septembre les nécessités de compléter ces stocks. Et Et à ce moment-là, on verra comment s'organise la solidarité. Mais de l'épisode, il était resté chez les agriculteurs une notion de la solidarité qui a pu se développer.
Solidarité qui existe toujours, comme bien souvent en France. J'aimerais vous faire écouter un témoignage recueilli aujourd'hui dans RTL Midi. Vous savez, nous avons la chance d'avoir les auditeurs en la parole avec Agnès Bonfillon ce midi et Virginie Garin. On a reçu Luc Ancelin qui est berger et qui a mis, c'est plutôt paradoxal, mais parce que c'est compliqué pour lui visiblement au niveau de l'argent, il a mis ses brebis en vente sur le site Le Bon Coin.
Le quoi qu'il en coûte pour les éleveurs. Aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, il y a urgence. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 8 mois, parce que d'habitude, sur des crises comme celle-ci, on attend 6 ou 8 mois pour avoir des aides quand on a un petit peu quelque chose. Là, c'est vraiment le quoi, on demande, les éleveurs demandent le quoi qu'il en coûte pour nous aider à franchir ce cap.
C'est clair, monsieur le ministre, on vous demande des aides, mais tout de suite.
Mais la vérité, c'est que les aides sont développées le plus rapidement possible. J'étais il y a 2 jours dans l'Allier pour annoncer le dispositif d'aide moins d'un mois et demi après les épisodes de grêle. Là, on a quand même besoin d'évaluer les besoins. On peut pas, évidemment, je comprends la difficulté. Il y a d'abord un besoin de trésorerie sur lequel on est en train de travailler pour regarder comment on peut faire. Et après, reconnaissons que la solidarité nationale, c'est vous et moi, c'est pas le gouvernement, c'est nous, citoyens, au travers de nos impôts, qui s'est exercée. Et elle, évidemment, elle s'exercera. Mais vous n'êtes pas dans la même situation si vous êtes assuré ou si vous ne l'êtes pas. Si vous êtes éleveur ou si vous n'êtes pas éleveur. Et donc, il faut pouvoir évaluer les pertes. Et donc, et regarder ceux qui ont pu irriguer, ceux qui n'ont pas pu le faire. Donc ça nécessite évidemment un peu de méthode, mais ça n'empêche pas que, comme ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté, parce que c'est un sujet de souveraineté, vous avez raison, oui. L'idée c'est d'agir le plus vite possible dès lors qu'on disposera des éléments les plus factuels possibles.
Quand on parle d'éléments aussi, c'est vrai qu'on traverse tout le pays des épisodes déjà météorologiques, c'est vrai Virginie Garin, oui, c'est compliqué,
monsieur le ministre,
plus la guerre en Ukraine par exemple.
Voilà, les agriculteurs, ils ont déjà eu la grêle, la guerre en Ukraine, leurs coûts ont flambé, la grippe aviaire, donc effectivement on peut imaginer qu'ils vont avoir besoin d'aide et puis peut-être aussi qu'ils puissent vendre leurs produits. Alors est-ce que vous lancez un appel à la grande distribution ce soir pour qu'elle rémunère ses fournisseurs? On sait qu'en ce moment les négociations sont très compliquées, donc est-ce que vous leur demandez aux grands distributeurs de changer leur comportement, d'aider les agriculteurs à travers leurs prix?
Alors chacun est citoyen et les grands distributeurs, ils ont une vocation aussi de réfléchir en disant on peut pas dire on a besoin d'agriculteurs, faire de grandes déclarations d'amour, si vous me permettez cette expression, et dans les actes, ne pas être au rendez-vous. C'est pas un appel que je fais ce soir, c'est un appel que je fais chaque semaine puisque je réunis avec mes collègues du ministère de l'économie les grands distributeurs, les agriculteurs, les représentants des agriculteurs, les industries agroalimentaires pour faire la pression et essayer de débloquer partout où c'est nécessaire les situations pour faire en sorte que les hausses des prix passent. Deuxième élément sur les aides. Influenza aviaire, près d'un milliard d'euros. Le gel de 2021, près d'un milliard d'euros. L'alimentation animale pour soulager les surcoûts liés à la crise en Ukraine, 500 millions d'euros. À la vérité, oui. Nous sommes déjà au rendez-vous.
Bien sûr.
Donc, au fond, il va falloir qu'on déploie. La difficulté pour le monde agricole, comme ça a été bien dit, c'est qu'on est dans des dérèglements climatiques, des dérèglements géopolitiques et des dérèglements économiques qui font peser une lourde menace. Et donc, tout l'enjeu pour nous et toute notre mobilisation, c'est d'essayer de pallier à ces dérèglements par des systèmes d'aide et aussi par l'adaptation de nos systèmes.
Marc Fesneau, avant de vous libérer, évidemment, ce soir, de vous remercier d'avoir été notre invité pour faire un tour très complet, notamment du monde de l'agriculture. Je vous demande rapidement quelques solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les agriculteurs? Est-ce qu'ils, bah, on a bien compris, l'aide, l'entraide, c'est quoi? C'est des citernes en plus, c'est puiser dans les lacs sans endommager la fameuse nappe phréatique, c'est détourner des réseaux entre villes pour amener vers la campagne. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, là, de façon immédiate?
Ben c'est toute la panoplie des outils que vous venez de disposer. C'est de pouvoir mobiliser là où il en reste l'eau qui reste et qui a été stockée en surface. Les lacs, c'est plutôt de l'eau de surface, c'est moins les nappes phréatiques. C'est de faire en sorte qu'on priorise un certain nombre d'usages agricoles, parce que notamment pour abreuver les animaux, par exemple, pour les alimenter tout court. Et donc, on a besoin de prioriser. J'entendais que vous parliez des pommes de terre, par exemple. On a besoin de prioriser les secteurs qui ont le plus besoin. Ça, c'est sur le court terme. Évidemment, la solidarité pour l'abreuvement au travers des citernes. La solidarité nationale, si besoin en était, et on voit bien que sans doute le besoin viendra une fois qu'on aura une évaluation des dégâts. Et puis enfin, sur le moyen terme quand même, l'adaptation des systèmes et puis la nécessité de créer des dispositifs de retenue d'eau, parce qu'on a une hygrométrie qui est la même à peu près chaque année, sauf que c'est très sec pendant 4 mois et beaucoup d'eau pendant 4 mois ou 5 mois. Et donc on a besoin de capter cette eau de l'hiver pour pouvoir l'utiliser, la mobiliser l'été, parce que sinon on n'y arrivera pas.
Pour terminer, on va parler de l'humain quand même une dernière fois. Et vous nous rassurez ce soir, il n'y a pas urgence, on va pas se précipiter pour aller chercher une bouteille d'eau au supermarché ce soir.
Non, il faut juste que chacun dans nos attitudes on fasse attention. On avait peut-être un peu oublié, il y a des pays où ils avaient de grandes habitudes, que l'eau est une denrée rare et que donc il faut l'économiser quand on a, et la limiter aux besoins qui sont les nôtres de vie et dont on a besoin. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, simplement ça nécessite la cellule interministérielle, la mobilisation des ministères. C'est pour faire en sorte qu'on pallie à la situation de crise le plus efficacement possible, mais que pour personne, et personne ne va être laissé dans une situation de dépendance sans eau, si je peux dire. Et donc la question, c'est plutôt l'organisation et la logistique.
Je me permets juste une dernière réaction, celle qui nous arrive maintenant du maire de Valence dans la Drôme, parce que on sait il y a des soucis pour arroser les golfs. On était avec le président de la fédération de golf ce matin. Je parle même pas des stades de football aujourd'hui, mais simplement d'arroser des plantes qui est interdit peut-être dans une région comme la Drôme. Et ce soir, monsieur le maire de Valence, Don Aragon, a répondu à Frédéric Perruche sur le fait que lui, il continue à arroser.
C'est une nécessité parce que si on ne veut pas que les villes deviennent des îlots de chaleur globaux, il faut lutter contre avec une politique de plantation d'arbres. On en a déjà planté 5000 et parce qu'on sait que c'est la seule solution pour rafraîchir certains quartiers dans lesquels, je rappelle qu'on a aussi plus de 80% de la population qui n'a pas de jardin ou qui n'a pas de climatisation. Et si on n'arrose pas les arbres, ils meurent. On a 37 000 arbres sur le domaine public. Celui-là, on l'arrose avec beaucoup de parcimonie. Mais les arbres récemment plantés, ceux-là, si on arrête de les arroser pendant 15 jours ou 3 semaines, ils meurent tous. Et je redis, on en a planté près de 5 000 dans les 24 mois qui viennent de s'écouler. Donc, on ne peut pas renoncer à ça.
Nicolas D'Aragon, le maire de Valence.
Monsieur Virginie. Le ministre, est-ce qu'il faut en fait n'arroser que les plantes qui se mangent?
Généralement, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, madame, tout à l'heure, c'est vrai que l'eau qui est mise sur les cultures agricoles, c'est de l'eau qu'on mange, si je peux dire, transformée en végétaux. Donc vous avez eu tout à fait de raison de rappeler ça, parce que l'eau agricole, c'est de l'eau pour l'alimentation, donc c'est l'eau pour nous tous, indirectement. En revanche, on peut comprendre que dans certains cas, pour des plantations, il y a besoin de le faire. Est-ce qu'il y a besoin d'arroser des pelouses et d'arroser des stades et d'arroser des fleurs? Peut-être pas, parce qu'on a besoin de prioriser. La vérité, c'est qu'on préférait tous le faire, mais que la vérité, c'est qu'il faut prioriser. Après, il appartient à chaque préfet de département de prendre ses décisions. Dans mon département du Loir-et-Cher, les jeunes plantations peuvent être arrosées. Mais nous ne sommes pas dans la situation de la Drôme. Et au fond, il faut que chacun se discipline, même si ça peut être compliqué certaines années, il faut que chacun se discipline. Ça pose aussi la question, y compris je connais des communes qui le font, d'avoir quelques réserves en eau qui permettent de pallier et évidemment d'arroser de jeunes plantations d'arbres qui ont effectivement besoin d'eau.
Merci en tout cas d'avoir été aussi complet, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire, et merci à vous, Virginie Garin, qui surveille jour après jour l'évolution de notre planète. On a parlé de restrictions, Virginie, vous l'avez entendu, c'est pas simple, on sait qu'il y a des mesures aujourd'hui un petit peu partout. Je vous propose d'écouter, avant de vous libérer, cette histoire avec Romain Bitot, qui nous a tous interpellés aujourd'hui. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Avec une petite surprise quand même pour une habitante, on a bien compris, d'un tout petit village qui s'appelle Château Porcien, et les gendarmes sont venus frapper à sa porte. Et
oui, mais c'est une délation qui a amené les gendarmes chez cette femme de 26 ans. Elle remplissait sa piscine mardi soir vers 18h, une piscine de 3 mètres sur 2 mètres. Et écoutez, cette mère de deux enfants est outrée.
Là, vu qu'il allait avoir la canicule, je vais la re-remplir pour les enfants, quoi, qu'ils puissent profiter vu qu'il va faire fort chaud. Et puis j'ai été dénoncée parce que j'ai rempli ma piscine. On dirait que j'ai commis un crime. On dirait qu'on a tué quelqu'un, quoi.
Et quelle a été votre réaction quand vous avez appris qu'on vous a dénoncé?
J'étais en colère. De toute façon, je suis sortie dans la rue, je les ai tous insultés. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais on est en restriction, machin. Mais moi, j'en ai rien à foutre parce que quand c'est les autres qui arrosent leurs putains de fleurs là, jusqu'à je sais pas quelle heure et ou qui nettoient leur voiture, eux, par contre, on leur dit rien. Moi, je remplis une fois la piscine, c'est la fin du monde. Moi, la piscine est encore là. L'eau est encore dedans. Ils m'ont pas dit de la vider, hein, de tout ça. Hein. Mes enfants, ils y vont, ils profitent. Faut bien profiter au prix que je vais payer l'amende. Hein.
Une piscine à quand même 250 euros, donc le prix du stage de citoyenneté qu'elle devra passer.
Merci à vous, en tout cas, 18h18 sur RTL. Dans un instant, la suite de votre journal, L'Étranger, bien sûr. On va parler également football. Oui, ce soir, c'est la grande reprise de la Ligue 1. C'est à partir de 20h, RTL Foot, 20h, 23h.
RTL Soir.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Lou.
Qui, moi?
Oui, vous. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount, les crevettes sont à seulement 8,49€ la barquette de 1 kg.
8,49€ les crevettes? J'ai plus qu'à ramener ma maillot.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto. Calibre 40-60, élevé en Colombie ou Équateur ou Venezuela.
Avant de partir en vacances, vous voulez être sûr que tout est prêt pour prendre la route? Alors si vous avez un impact, n'attendez pas. Chez Carglass, en 30 minutes, on le répare. C'est rapide et efficace chez nous. Comme ça, vous serez tranquille sur la route. Et pour rouler encore plus tranquille, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 1 an d'abonnement à l'appli Coyote. Parfait pour connaître en temps réel les dangers, les limitations de vitesse. Comme ça, vos points, c'est plus facile de les garder. Alors profitez-en maintenant. C'est jusqu'au 6 août sur carglass.fr.
Carglass. répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
RTL Soir, avec Christophe Paco.
18h19, Gérald Darmanin a annoncé faire appel devant le Conseil d'État de la décision du tribunal administratif de Paris de suspendre l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen. Le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il était bien décidé à lutter contre ceux qui tiennent et diffusent des propos de nature antisémite et contraire à l'égalité entre les hommes et les femmes sur notre pays, sur notre territoire. Et puis la préfecture d'Île-de-France a organisé ce matin une mise à l'abri de 321 personnes vivant dans des campements de fortune. C'était au nord-est de Paris. Elle les a orientées ensuite vers des hébergements d'accueil, bien sûr, de notre région. La Chine à l'étranger a suspendu toute coopération avec les États-Unis sur le réchauffement climatique et dans bien d'autres domaines. En représailles à la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des députés américains, Nancy Pelosi, la Chine qui a mobilisé, on le sait, avions et navires de guerre pour de plus grands exercices militaires jamais organisés pour répondre à cette visite tant contestée. Et puis comme prévu, une fois la sanction, très lourde sanction infligée à la basketteuse Brittney Griner, 9 ans de prison, la Russie s'est dite prête à parler d'échange. Bonsoir à vous, Lionel Gendron.
Bonsoir, bonsoir à tous.
La teneur de cet échange entre la basketteuse et donc des personnes russes.
Oui, la Russie en tout cas change d'avis, hein, contrairement à ce qu'il disait dans un premier temps. Elle est prête à négocier avec la sentence très lourde infligée hier, surtout en rapport à l'infraction. Moscou a stupéfait les Américains. Le monde du sport, mais pas seulement, hein, l'opinion publique commence à faire pression sur Joe Biden pour qu'il n'abandonne pas cette citoyenne américaine, qui plus est double championne olympique. Alors, la Russie estime avoir désormais les cartes en main pour négocier et discuter de l'échange proposé par les États-Unis. Une négociation quasi mathématique. Brittney Griner, condamnée à 9 ans, et Paul Whelan, suspecté d'espionnage, condamné à 16 ans de prison, 16 plus 9, 25, 25 ans, soit le nombre d'années auxquelles est condamné Victor Bout, tristement célèbre marchand d'armes et qui serait dans la négociation contre la libération des prisonniers américains. Autre élément, le Kremlin souhaite donner le tempo, n'aurait pas apprécié que les termes de l'échange fuitent dans la presse américaine et surtout se pose en interlocuteur obligé, que ça plaise ou non à Washington.
Lionel Gendron en duplex de New York, correspondant permanent pour RTL, merci à vous. Les sports. Le football, week-end de reprise pour notre très chère Ligue 1. Ce sera sans Kylian Mbappé, blessé aux adducteurs. Mais dès ce soir, pour ouvrir le bal, on va s'intéresser à un des grands rivaux cette saison du Paris Saint-Germain. C'est Lyon, l'OL à la maison face au promu ajaccien. Match à suivre avec vous, Eric Silvestro dans RTL Foot.
Eh oui Christophe, c'est la traditionnelle rentrée des classes du mois d'août pour les footballeurs. Les Corses d'Ajaccio ont été promus avec les félicitations et veulent faire bonne figure dans l'élite. Quant aux élèves lyonnais, après une année très moyenne, une décevante 8e place, l'heure est à la reconquête des premiers rangs. Pour cela, les anciens gloire, Alexandre Lacazette, capitaine ce soir, et Corentin Tolisso ont été rappelés, seront fêtés d'ailleurs au Groupama Stadium. Bien. Coup d'envoi 21h, ce sera avec Raphaël Vantard au commentaire tout à l'heure dans RTL.
On va se régaler, je rappelle, 20h, 23h avec nos podcasts également, vous pouvez aller faire le tour du football, on refait le match et vous avez même en bonus un excellent focus consacré à un ancien Lyonnais, Karim Benzema. Merci beaucoup Eric Silvestro. Dans un instant, notre invité de l'été dans 10 minutes, justement, sera un préparateur physique. Il sera avec nous pour parler de cette drôle de saison qui sera coupée en deux puisqu'il y a une grosse Coupe du Monde au milieu. Tout le monde le sait, au Qatar, c'est Martin Bouchaïd qui sera notre invité dans un quart d'heure maintenant sur RTL.
RTL Soir. Avec l'offre saison Prime Vidéo à 89€ au lieu de 99€, faites-vous livrer la Ligue 1 Uber Eats, commentée par Thierry Henry et nos experts Prime Vidéo. Offre spéciale de lancement valable du 11 juillet au 28 août 2022 inclus. Non remboursable, abonnement supplémentaire exclusivement pour les membres Amazon Prime.
IKEA. Alors là, il y aura les épices rangées par couleur. Là, ma collection de salières ici. Les livres de cuisine classés par ordre alphabétique. Là, un vase bleu outre-mer qui s'accordera parfaitement avec la crédence.
Chérie, tu penses pas qu'on devrait d'abord commencer par dessiner les plans de la nouvelle cuisine ?
Concevoir une cuisine qui vous ressemble, c'est facile avec nos experts. Du 11 juillet au 31 août, profitez gratuitement d'un rendez-vous d'une heure en magasin ou depuis votre canapé et repartez avec des plans 3D de votre future cuisine et une liste d'achats complète. Voir conditions sur ikea.fr.
RTL.
Laurent Marsic.
Soyez prudents sur la route, c'est un petit chassé-croisé qui se profile à l'horizon. Et dès ce soir, bien sûr, on voit orange, presque rouge. Alors il est grand temps d'accueillir Laurent Marsic qui, comme tous les soirs, vous propose une très belle idée de jeu. Alors celui-là, c'est un vrai classique. Hein.
Voici un jeu que nous pourrions appeler le mot le plus long. Allez, en hommage à la célèbre émission de télé des chiffres et des lettres. Dans le cas présent, nous allons jouer avec les lettres. Cela demande un peu de concentration et un papier et un crayon. Première étape, il faut que toi ou quelqu'un dans la voiture note sur un papier les lettres qui figurent sur les plaques d'immatriculation des deux prochaines voitures qui vont nous dépasser. A, B, C, ok. P-E-N, c'est fait. Et avec ces lettres, il suffit donc de tenter de composer un mot le plus long possible, s'il vous plaît.
Un banc.
Pas mal, mais je pense qu'on peut faire encore plus long. Je note tout de même 4 points pour toi. Banc, B-A-N-C, égale 4 lettres, 4 points.
Une noix de pécan.
C'est le mot le plus long. T'as compris le principe ? Un papier, un crayon, des lettres, le mot le plus long. Et maintenant, à toi de jouer.
Merci beaucoup Laurent Marsic, on vous retrouve tout à l'heure dans Laissez-vous tenter d'été avec Steven Bellery et Monique Younes. Chronique en tout cas retrouvée tout cet été dans notre podcast RTL Albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire.
RTL. 7 jours, 7 reportages.
Il va falloir rentrer, il y a un temps pour tout. Bonsoir Vincent Serrano.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Vous avez passé une semaine de rêve à la montagne, le lac de Tignes, oui. Du parapente, du petit fromage persillé qui va bien, et même les aires d'autoroute. Vous vous situez à quel endroit là pour l'instant ?
Alors écoutez, on est du côté de Val d'Isère. La pluie fait son apparition, donc on va pas tarder si vous voulez bien.
Attendez Vincent Serrano, ce que je comprends pas très bien, c'est que vous étiez bien sur l'aire d'autoroute de Chambéry hier.
J'étais sur le départ effectivement hier soir et j'ai croisé un couple de Varois sur une aire d'autoroute qui m'a mis au défi. Mais oui, de les suivre en rang donnée parce
la
que justement partaient dans les Alpes et voilà, et on les a suivis, ils sont partis avant nous, mais bon, on les a suivis quand même sur cette Via Ferrata. C'est comme un parcours à flanc de falaise avec des échelles, des ponts, on est tous reliés par une corde en file indienne, et Cédric, mon guide, vous allez le voir, me met tout de suite à l'aise.
Soit avec les prises naturelles bien sûr, soit avec les barreaux qui sont prévus à cet effet pour les mains ou pour les pieds. Et au niveau de la technique, c'est un petit peu à l'image quand vous portez quelque chose de lourd, une bouteille de gaz pleine par exemple, on la porte bras tendu.
Ce qui arrive souvent.
Bon, alors 6 bouteilles d'eau d'un litre et demi, ça arrive plus souvent ça, non? Bon ben vous n'avez aucun gogol qui est là, les bras fléchis sur le parking en train d'amener ça à sa voiture, on est bras tendu. Ben, c'est un peu le même principe l'escalade en Via, ça vous va? Vous avez des questions?
Changer de place.
Ça va derrière? On y va si on ne veut pas rentrer à 21h47. Et vous comptez à ce qu'on vous sème toute la Via comme ça ou vous allez...
Cédric fait le malin, on est au début mais je commence à être pas mal essoufflé quand même.
Bah, t'es essoufflé parce que tu la connais pas, moi je la connais par cœur. Je t'ai quand même vu arriver avec la clope au bec sur le parking.
Ah. Vous l'avez compris, hein, Cédric a été taquin et très rassurant aussi.
Il commence à y avoir 20-30 mètres de vide juste devant nous là, si je tombe.
Tu partiras pas sur les 30 mètres de vide, tu vas prendre juste un petit pet de 1,50 m.
Donc je tape Nicolas d'abord.
Bah là tu tapes Nicolas parce que tu vois on est l'un sur l'autre.
Si tu tombes directement en arrière, tu me tapes pas. Hein.
Je vais essayer de tomber correctement.
Si tu dérapes avec tout Mouscoton, ouais. Donc tu tapes Auguste aussi.
J'arrive Auguste.
Et une autre petite question, bah, si t'as peur à 30 mètres, sache qu'à la fin il y aura 330 mètres.
Bah oui, moi j'ai le vertige. Hein, c'est fou ça hein. Oh là là. En tout cas, c'est une activité qui a toujours fait un carton hein, depuis quelques temps chez les vacanciers. Et vous avez fait donc cette activité avec Nicolas, Auguste, c'est bien ça?
Oui, toute une famille de Parisiens, Mathilde. Hein. Mmh. Oui, Mathilde qui fermait la marche. Pour une semaine de vacances à la montagne, comme moi. Alors, il y a le paysage d'abord qu'on admire ensemble, comme des bouquetins suspendus à la falaise. Et ce constat, qu'on fait aussi ensemble, eh ben, c'est que le réchauffement climatique existe aussi ici. Et vous allez le voir, cette fois-ci, Cédric devient beaucoup plus sérieux.
Bah, ceux qui ne sont pas sensibles actuellement au réchauffement climatique, oui, on peut se poser la question s'ils ne sont pas, depuis quelques années, dans un bunker et se demander si les températures sont normales, évidemment. Évidemment que non.
Ah, évidemment, ça ne nous a pas non plus empêché quand même, Christophe, vous vous en doutez, de profiter de cette activité. Évidemment, un peu trop même profiter, puisque je ressors de là avec un paquet d'ampoules sur les mains.
Ça, c'est le problème.
Mais des images plein la tête.
Ouais, des images quand même plein la tête sur toute cette semaine. Hein. Et je sais qu'en plus, vous avez bien mangé du côté de nos amis du chalet Bouvier, tout là-haut. Hein, je me suis bien renseigné. Oui. Hey, chef étoilé le plus haut en montagne, bien sûr, qu'on avait rencontré sur le Tour de France il n'y a pas si longtemps. Vous nous avez fait rêver, aérer, surtout toute cette semaine, et c'est à retrouver évidemment cette saga savoyarde, cette saga montagnarde sur le site RTL.fr. Bon retour vers la capitale, on vous attend Neuilly. Hein.
Merci Christophe. Bonne
Allez,
soirée à tous.
Dans un instant, le rappel des titres, à tout de suite.
RTL Soir.
Bonjour, c'est Samuel Goldschmidt.
Les fous du jardin.
Votre pelouse est triste, vous ratez vos radis, cultiver des légumes vous effraye, pas de problème. Tous les week-ends de l'été, vous avez rendez-vous avec les fous du jardin qui vont vous aider à planter sans se planter.
Adeptes de jardinage, soyez à l'écoute de Samuel Goldschmidt dans RTL Matin Weekend.
À demain donc pour jardiner sans culpabiliser.
Burger King.
Alors c'était bien chez Burger King?
Super, mais alors impossible de se rappeler le nom du menu. Ah, c'est pas vrai, ça recommence. Léo.
Ah oui, c'est le menu.
Mais si, tu sais, le menu enfant à 4 euros là.
Ah oui, le menu.
Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète King Junior, avec un burger, un accompagnement, une boisson, un dessert et un jouet, est à seulement 4 euros. Menu King Junior avec jouet à 4 euros, prix conseillé. Pour votre santé, évitez le grignoter.
Burger King.
Renault. Et vous, vous êtes plutôt été-e-tech des mers, été-e-tech de la campagne ou été-e-tech de la montagne? À chacun son été, à chacun son e-tech. Découvrez les motorisations Renault e-tech 100% électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Profitez de l'été pour découvrir Renault Arkana e-tech hybride dans le réseau Renault partout en France et sur Renault.fr. Renault. Pensez à covoiturer.
Il est 18h30.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
Le rappel des principaux titres de l'actualité ce soir. Et à la une, un été donc de tous les records sur le plan de la sécheresse. Plus de 100 communes sont privées d'eau potable en France aujourd'hui. Une cellule interministérielle a été créée. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, était notre invité il y a quelques minutes sur RTL. Véritable électrochoc, prise de conscience, solidarité nationale pour Marc Fesneau, le ministre, et restriction de bon sens. Dans ce contexte, plusieurs réacteurs nucléaires d'EDF ont dû abaisser leur production en raison des températures élevées des cours d'eau utilisés pour le refroidissement des réacteurs. Et puis ce soir, c'est le grand retour de la Ligue 1, avec comme première affiche à 21h, la rencontre entre Lyon et Ajaccio. Match à suivre dès 20h. Dans RTL Foot avec Eric Silvestro. La météo ce soir, c'est avec Valérie Quintin.
Oui, et ben on va avoir des orages, figurez-vous, une grande partie de la nuit entre le Massif central et les régions alpines. Alors ça pourrait cogner localement assez fort. Et demain, à nouveau, déjà très vite, dès le matin, place au soleil partout en France. Des températures un petit peu fraîches demain matin, ça va faire du bien ça. 11 degrés à Brest, à Reims ou encore à Orléans, 14 à Paris, 15 à Mulhouse, 26 degrés tout de même au réveil. À Nice, du soleil donc toute la journée, un mistral assez fort dans la vallée du Rhône et un vent de nord-nord-est à 40-50 km/h sur le reste du pays. Et ça, ça va permettre aux températures de baisser un petit peu. En tout cas, sur les deux tiers nord du territoire, 20 degrés attendus à Cherbourg au plus chaud de l'après-midi, 24 à Abbeville, 26 à Paris, 27 à Tours. Il fera encore 31 degrés à Lyon, 33 à Toulouse et Bastia, 37 degrés à Nîmes. Pour dimanche, exactement le même type de temps. Des orages le soir sur les Alpes et les Pyrénées, du soleil, du vent, toujours ce vent de nord-nord-est. Donc des températures qui seront à peu près stables et qui repartiront à la hausse à nouveau dès lundi.
Merci mille fois. Valérie Quintin, vous retrouve évidemment juste avant le journal de 19h.
Passez une bonne soirée sur RTL.
RTL, revivre ensemble.
Au cœur de l'été, la reprise du championnat de France a démarré dès ce soir avec Lyon, Ajaccio. Ça va se poursuivre tout le week-end avec Eric Silvestro et toute son équipe. Drôle de saison, hein, tout de même, c'est vrai, avec une Coupe du Monde en plein milieu. Elle va se dérouler, on le sait, entre novembre et décembre au Qatar et on va ramasser des journées de championnat en plein hiver et notamment entre Noël et Nouvel An. Il y aura 4 journées en 10 jours. On va parler ce soir de préparation physique justement avec un consultant qui œuvre notamment du côté de Lille, qui a travaillé au LOS, qui travaille de temps en temps et qui a travaillé également avec le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel à l'époque. Responsable performance, préparation physique, c'est l'invité de l'été. Martin Boucheit, bonsoir à vous.
Bonsoir.
C'est pas simple de démarrer une saison, c'est que généralement il y a une grosse phase de préparation avant le mois d'août qui dure presque quoi, 15 jours, 3 semaines. Ça c'est par habitude.
Avant le mois d'août, oui, bah même on bosse tout le mois de juillet, il y a même des clubs qui reprennent fin juin. Donc on a des périodes entre 5 à peut-être un petit peu moins de 4 semaines pour les clubs qui reprennent le plus tard.
Et donc là, cette année, c'est complètement différent, bien sûr, avec cette saison où on sait qu'il y a une Coupe du Monde en plein hiver. Hein.
Alors oui, alors, on sait que la deuxième partie de la saison, qu'à partir de la journée 15, ça va être différent. Mais sur la première partie, justement la période de juillet dont je parlais, bon, ça c'est à peu près comme toujours. Il y a toujours l'attente de récupérer tous les internationaux. En fonction des clubs, il y en a plus ou moins qui rentrent tôt ou tard. Mais on va dire que la préparation en elle-même et le début de saison, on est à peu près aligné sur ce qu'on a l'habitude de faire. Par contre, l'inconnu est total sur comment est-ce qu'on va gérer le mois de novembre et décembre, et puis comment est-ce qu'on va se remettre de cette Coupe du Monde, et puis comment on va repartir. Ça, c'est évident.
Surtout pour les grandes stars, bien sûr, parce qu'on le voit avec cet été déjà, avec la fin du championnat de l'équipe de France la saison dernière, on voit un garçon, on l'a pris aujourd'hui, comme Kylian Mbappé, qui ne va même pas démarrer la première journée, car il est déjà blessé, quoi, quelque part.
Bah, ça, c'est toujours le danger. D'enchaîner, de ne pas avoir suffisamment de repos avec essentiellement le rythme des internationaux. Et ça, tous les clubs qui ont beaucoup d'internationaux en souffrent. Parce qu'évidemment, ils veulent les récupérer le plus tôt possible. Donc, est-ce qu'on leur laisse 2-3 semaines après les sélections? Il faut bien balancer le repos, surtout sur l'aspect psychologique. On les récupère en général assez frais et pas très désentraînés parce qu'on leur laisse pas justement autant de temps que d'autres joueurs qui sont pas sélectionnés, qui des fois vont avoir 4 à 5 semaines. Mais des fois, voilà, ça reste trop court quand même. Et puis, comme ces joueurs qui rentrent de sélection arrivent plus tard dans la préparation, le reste de l'équipe est déjà sur des matchs amicaux, oui. Après le troisième, quatrième match amical, donc tout le monde est déjà un peu bien lancé. On essaie de les intégrer comme on peut, mais évidemment, la progression, la progressivité n'est pas la même et c'est toujours une complexité. Et je pense que dans ces cas-là, on fait tous, on va dire, le moins pire. On ne fait pas forcément au mieux, quoi.
Ça va être complexe cette saison, évidemment, parce que je pense à des garçons comme Messi, Neymar, qui jouent gros pour leur équipe nationale, comme c'est vrai avec l'équipe du PSG pour aller loin en Ligue des Champions. Je prends toujours cet exemple parisien, parce que c'est l'équipe un peu star, un peu vedette de notre championnat aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas craindre, par exemple, de voir un Messi en pleine forme maintenant, pour être au top, évidemment, pour la Coupe du Monde, et ensuite le voir marcher, comme le critiquent souvent d'autres observateurs du football ?
Ça va dépendre de la charge de la compétition et jusqu'où ils vont aller, quoi.
Ouais, c'est
dans l'idéal pour un club, c'est de voir ces internationaux aller à mi-chemin, on va dire, pour que quand ils reviennent, ils aient déjà eu le temps de récupérer un peu, quoi.
Et une saison qui débute, on le rappelle, à Martin Bucherut avec pas mal de chaleur. On attend une quatrième vague d'ailleurs. C'est un plus, c'est un moins, la chaleur pour les joueurs de foot quand ils sont préparés avant une grande saison comme celle-ci ?
Alors je dirais, d'un point de vue purement plus physique, physiologique, faire une préparation dans des environnements chauds, c'est une bonne stratégie, parce que ça rajoute du stress sans pour autant avoir à s'entraîner plus. Donc c'est une manière de capitaliser encore des efforts et de mieux se préparer. Et je dirais que des équipes qui sont allées se préparer dans des environnements un peu plus chauds, qui sont allées dans le sud de la France ou un peu plutôt dans le sud de l'Espagne, devraient être un petit peu avantagées,
okay,
en rapport à des équipes qui seraient allées s'entraîner plus au frais dans le nord de l'Europe ou en Europe de l'Est, comme ça se fait souvent, ou à la montagne. Et il y a une dynamique assez intéressante sur les lieux de préparation en relation justement à ces variations climatiques. Ça ouvre une autre dimension de notre métier qui est passionnant.
Oui, parce qu'avant, on allait toujours se préparer à la montagne, hein, on le sait, on se souvient de l'équipe de France à Tignes même. Voilà,
exactement.
C'est ça, on prenait les globules rouges. Merci Martin Bucherut d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en matière de performance. Vous avez œuvré notamment au Paris Saint-Germain en 2020 avec Thomas Tuchel. Et actuellement, par mission constante et variée, vous travaillez avec le LOSC, le grand club lillois, l'ancien champion de France. Merci à vous, Martin Bucherut. Bonne soirée.
Merci, à vous aussi. Merci, au revoir.
Carrefour. Pour vous permettre de manger de bons produits frais tous les jours, Carrefour et Carrefour Market vous proposent des produits frais à prix imbattable. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Jusqu'à dimanche, le pavé de saumon filière qualité Carrefour est au prix imbattable de 14,99€ le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour.
Élevé en Norvège, détails sur carrefour.fr.
Chérie, on part en week-end.
Super, on y va comment ?
En voiture.
On n'a pas de voiture.
Mais c'est pas grave ça, on n'a qu'à passer chez Citroën en acheter une. Allez, prends la valise, on y va.
Ah ok, on y va.
Avoir sa Citroën tout de suite, ça rend tout de suite plus zen. Profitez des offres à emporter Citroën jusqu'à 1 000€ de primes supplémentaires sur une large gamme de modèles en stock, disponibles immédiatement. Citroën.
Offre à particulier pour la commande et la livraison d'un véhicule neuf en stock avant le 31 août, selon modèle éligible. Détails sur citroën.fr. Pensez à covoiturer.
Bonjour.
Bonjour. Alors pour moi, un Whopper et pour mon fils, un menu... Léo, aide-moi.
Bah, c'est le menu...
Vous voyez, à 4 euros,
si,
là.
Papa, tu sais.
Mais si, non. Le menu à 4 euros pour les enfants.
Ah, le menu...
Voilà.
Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète King Junior, avec un burger, un accompagnement, une boisson, un dessert et un jouet, est à seulement 4 euros. Menu King Junior avec jouet à 4 euros, prix conseillé. Pour votre santé, bougez plus.
Burger King.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Lou.
Qui, moi?
Oui, vous. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount, les crevettes sont à seulement 8,49€ la barquette de 1 kg.
8,49€ les crevettes? Bah, j'ai plus qu'à ramener ma maillot.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto.
Calibre 40-60, élevé en Colombie ou Équateur ou Venezuela.
RTL, les séries de l'été.
C'est votre série estivale de la semaine sur RTL. Les stars accros à la Côte d'Azur. Et lui, c'est un vrai amoureux de la côte depuis les années 80. Patrick Bruel, qui encore, il y a à peine quelques jours, a joué ses plus grands titres au fameux festival de Ramatuelle. C'est d'ailleurs l'un des rares VIP à avoir maintenu ses vacances sur place pendant la crise du Covid. Tropézien d'adoption, on vous amène ce soir dans les pas de Patrick Bruel avec Hugo Hamelin. Bonsoir à vous, Hugo.
Bonsoir.
Ramatuelle, c'est le lieu de tournage du dernier film, en plus avec Patrick Bruel, qui s'appelle Villa Caprice. C'est aussi un village touristique, mais beaucoup moins bling-bling que sa voisine Saint-Tropez.
Exactement, c'est un village avec des terrasses en escalier, des ruelles minuscules et des villas magnifiques. C'est l'endroit idéal pour les stars presque assagies comme Patrick Bruel, lui dont la famille est originaire d'Algérie et qui a toujours eu un lien particulier avec la Méditerranée. Bruno Caietti est l'un des organisateurs du festival de Ramatuelle.
On connaît bien Patrick Bruel ici sur la Côte d'Azur. Il vient très régulièrement à Saint-Tropez. On l'a vu jouer au boule sur la place d'Élysée, par exemple. Il venait déjà à l'époque aux fameuses soirées blanches de Eddie Barclay avec toute la clique, Carlos, etc. Mais depuis, il vient aussi très régulièrement au festival de Ramatuelle qui accueille des pièces de théâtre mais aussi de la musique. Et donc, il a joué vraiment plusieurs fois en concert. Il est venu avec des orchestres, il est venu seul en scène avec un piano. Et je crois qu'il vient avec plaisir à chaque fois.
L'année dernière, il est venu en tant que spectateur d'ailleurs.
Il est vraiment autour de nous là, donc il vient en voisin, il loge en général sur Saint-Tropez et donc il vient au festival voir ses amis, voir les chanteurs, voir les pièces de théâtre.
Et cet été on pourra le revoir.
Alors cet été il vient en vedette, il vient de nouveau sur la scène du Théâtre de Verdure à Ramatuelle. C'est lui qui fera l'ouverture du festival de théâtre de Ramatuelle. Et ce que je peux vous dire c'est que les places se sont vendues en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, toutes les places étaient vendues.
Combien de places ?
1200 places.
Non, non, je vous rassure. Non, 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 ne me tentez pas. On connaissait le Patrick Bruel, en tout cas, champion de poker, hein, bien sûr. Et on découvre que c'est aussi un joueur de pétanque confirmé, notre Patrick National.
Et oui, notamment sur la place d'Élysée à Saint-Tropez. Il cherche la gagne à tous les coups, Patrick. La performance, la recherche de crédibilité, c'est d'ailleurs un petit peu l'histoire de sa carrière. Son talent de chanteur était contesté à ses débuts. On le traitait de chanteur à minette. Il a fallu convaincre. Convaincre aussi pour obtenir des rôles au cinéma. Et donc, Patrick Bruel est devenu un compétiteur acharné, comme le raconte son ami Michel Boujna, qui va le retrouver à Ramatuelle cet été.
Je vais t'attendre au coin de la rue. À l'heure où les lumières s'éteignent, quand tu auras trop dansé, trop bu.
Saint-Tropez reste Saint-Tropez, c'est mythique. C'est vrai que Patrick est un compétiteur né. Il aime la compétition. Donc, quand il fait des parties de pétanque, par exemple, c'est à la vie et à la mort. Mais j'adore. Mais jamais méchant, hein. Mais il adore la compétition.
Mais même avec un ami de 30 ans, même pendant les vacances.
Ah ben oui, il n'y a pas d'amis de 30 ans, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien.
Il n'a plus d'amis sur le terrain, mais il reste de l'amour en dehors. Michel Boujna m'a confié que le grand plaisir de Patrick Bruel, quand il était en soirée avec des amis, c'était de prendre un piano, une guitare qui traînait dans un coin et de reprendre les tubes français, jamais les siens. Et ça, c'est formidable.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Stromae, comme on dit. En Belgique, bien sûr, Stromae pour les autres. Avec Patrick Bruel ce soir. Merci mille fois, Hugo Hamelin. Et demain, nous parlerons dans cette série estivale de la semaine des peintres à Saint-Paul-de-Vence cette fois. Dans un instant, laissez-vous tenter d'été, puis les informations de 19h avec Aude Vernuccio.
RTL Soir. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron ? Oh, ils sont vraiment terribles.
Ne me dis pas que tu veux me parler de Lidl.
Bah, comment vous avez deviné ? En ce moment, les tomates en grappe sont à 1,29€ le kilo, patron.
Moins de 2€ le kilo ? Là, tu me racontes des cracks.
Oh bah non, patron, c'est le vrai prix et elles sont origine France. Hein.
Tu me lâches la grappe, oui. On est déjà assez mal comme ça.
Oh bah oui, on est très mal. Hein.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Lidl, nommé meilleure satisfaction client 2022, catégorie distribution alimentaire, étude Wiesville 2022, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Oh là là, vous avez vu ces températures ? Quand on monte dans la voiture, il fait une chaleur. Alors forcément, vous mettez la clim.
Et regardez votre pare-brise, vous voyez un impact? Avec le chaud-froid, ça risque de fissurer. Alors avant que ça craque, venez vite chez Carglass. Chez nous, votre impact en 30 minutes, c'est réparé. Et en ce moment, un an d'abonnement à l'appli Coyote, c'est offert. Vous avez juste à faire réparer votre impact ou remplacer votre vitrage en prenant rendez-vous sur carglass.fr. Alors profitez-en maintenant, c'est jusqu'au 6 août.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Contre le Covid-19, une deuxième dose de rappel est désormais recommandée pour les personnes de 60 ans et plus, les femmes enceintes et pour tous les adultes à risque de développer une forme grave ainsi que leur entourage. N'attendez pas. Prenez rendez-vous dès maintenant chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention.
RTL.
Laissez-vous tenter de l'été.
Laissez-vous tenter de l'été avec ce soir autour de la table de ce grand studio Monique Younes. Bonsoir Steven Bellery, bonsoir et Laurent Marsic, bonsoir à vous.
Bonsoir. Bonsoir.
Je suis ravi d'être avec vous. Pour commencer, on va parler du disque le plus vendu de la saison. Il s'appelle Civilisation. C'est le quatrième album solo du rappeur Orelsan qui s'est déjà écoulé à plus de 600 000 exemplaires. Orelsan est devenu tout simplement une superstar. Et Steven Bellery, qui a de la chance, l'a rencontré pour vous.
Oui, tout a commencé mi-novembre. Par surprise, Orelsan a dévoilé le brûlot politique, l'odeur de l'essence dont le clip cumule 20 millions de vues.
Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif, voilà ce qu'on a quand on censure les artistes.
Orelsan décortique la société dans plusieurs titres de l'album. Comment fait-il pour analyser avec autant de finesse notre époque? Réponse du rappeur normand.
Je crois que, bizarrement, c'est le fait d'être un peu en retrait. Genre, j'écris des morceaux où je parle des médias alors que je regarde jamais la télé. En fait, je ressens beaucoup l'époque par rapport aux gens avec qui je discute. J'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien les gens, j'aime bien parler. Par exemple, je vais parler avec ma mère, elle va pas avoir le même ressenti qu'un pote à moi. Ou... Moi, je me vois comme un narrateur, en fait. Je me vois même pas vraiment comme un acteur de la société dans ma position sur l'album, tu vois.
Les rappeurs ont tendance à sortir beaucoup de chansons ou des albums très régulièrement, tous les 1 ou 2 ans. Vous prenez 3-4 ans entre chaque disque, c'est important. Vous avez besoin de ce recul, vous avez besoin de vous imprégner de notre société pour mieux la raconter.
Je pense que j'ai besoin de m'imprégner, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de me nourrir, lire des bouquins. Il y a un truc complètement factuel, mais je tourne beaucoup, 2-3 ans, et ensuite je mets 1 an et demi, 2 ans à le faire, donc au final je m'arrête pas vraiment. Moi en tout cas, il me faut 1 an et demi pour faire un album, c'est sûr. Je te dis, en bossant un peu tous les jours, quoi, en étant à fond. Aussi, je sors des albums un peu à l'ancienne, tu vois, dans le sens où je fais des albums auxquels les morceaux se répondent, un peu complets. Pour moi, le problème, c'est pas vraiment de faire des morceaux, c'est juste faire vraiment les bons morceaux, quoi. Sur un album comme ça, je pense que je fais genre 80 morceaux, pas en entier, je fais genre des bouts de refrain, des bouts de couplets, et c'est faire le tri là-dedans qui est compliqué.
Le mot civilisation, qui est la chanson qui clôt le disque, pourquoi l'avoir choisi pour baptiser ce disque? C'est quoi une civilisation pour vous? C'est un défi?
En fait, je finis la chanson en disant j'essaye d'avoir un enfant, j'essaye d'avoir une civilisation. Je trouve que ça symbolise bien où j'en suis dans ma vie, à réfléchir à comment avancer avec les autres, tu vois. Pour moi, ça signifie ça. C'est quand même des valeurs, des façons de penser, des façons de s'organiser. Je sais pas, je trouve ce mot assez fort. Je vois aussi ça comme une transmission un peu.
Un indien payé 2 euros par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine.
Le morceau baise le monde.
Orelsan est devenu en quelques années l'une des plumes les plus saillantes du rap français.
Ouais, même de la chanson française. Une écriture fascinante, un foisonnante, un regard épatant et un flow qui séduisent toutes les générations. Une chanson du disque résonne comme sa philosophie créative. Elle s'appelle Seul avec du monde autour.
C'est la façon dont j'aime bien vivre, en fait. J'ai des gens en qui j'ai confiance, j'ai un cocon familial et de potes, et en même temps, des fois, j'ai besoin d'être seul. Je sais pas, ça marche dans les deux sens, dans le sens triste comme dans le sens joyeux, quoi. Et même ma façon de travailler, j'aime bien être tout seul. Par exemple, j'ai fait un studio qui est dans ma maison, et genre, c'est une maison un peu de famille où tout le monde a les clés et tout, et genre, je suis avec des gens, mais je suis quand même en train de me concentrer dans mon truc, et j'ai l'impression que c'est un peu ça, mon équilibre, quoi.
Je suis clairement pas un vrai rappeur, entend-on. Quel genre de rappeur vous êtes, au fond?
En fait, j'ai quand même un côté un peu auteur, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aime bien me lever le matin, me balader dans la campagne pour écrire, ce qui n'est pas le cliché. Alors qu'en vrai, plein de rappeurs que je connais, ils sont comme moi. Et quand les gens s'imaginent le rap, ils pensent que c'est hyper instinctif et machin, alors que moi, je bosse pas du tout comme ça, quoi. Moi, je me considère pas comme un génie du tout. cool. Tu vois, je me considère plus comme un mec qui taffe et qui réfléchit à comment mettre des trucs aux bons endroits, tu vois. Et j'aime bien avoir le temps.
Rappelle-moi que ma force, c'est d'être sensible. On vous rappelle ça dans Civilisation. C'est peut-être ça votre singularité. Vous êtes un rappeur sensible.
C'est bien d'être au courant qu'on est sensible. Ça permet d'être moins en réaction et d'être moins à fleur de peau, quoi.
Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon show, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est
le quatrième album solo d'Orelsan est toujours disponible. Et puis si vous avez Amazon Prime, allez voir cette fabuleuse saga documentaire.
Merci Stéphane Bellery, vous restez avec nous bien sûr, puisque Laurent Marsic va nous parler télé dans un instant, mais sans plus tarder, Monique Younes qui va nous amener au château de Chambord, dans le Loir-et-Cher. On ne parle pas de Michel Delpech, on parle de Sting.
Ben voilà.
Ben oui, ben oui. Il y a une chanson quand même. Sting qui a créé l'événement fin juin en attirant tout de même plus de 20 000 personnes pour un concert dans ce site enchanteur.
Ben oui, vous savez, le château de Chambord, château de François Ier, est le seul domaine royal encore intact depuis sa création. Il est très très prisé des célébrités. Souvenez-vous que le président Macron, friand de symboles, a fêté en 2017 son 40e anniversaire où
à Chambord.
Mais l'amoureux inconditionnel de Chambord, vous savez c'est qui ? Le prince Charles. Mais oui, pour sa première visite officielle en France en novembre 1998, il avait une exigence, le prince Charles, dormir à Chambord, dont une partie des plans a été, paraît-il, dessinée par Léonard de Vinci.
D'accord, est-ce qu'il a dormi avec la Joconde alors, Charles ?
Mais non, mon chéri, parce que le château est impossible à chauffer, il aurait eu trop froid en novembre. Oui. Mais Jack Lang, alors ministre de la Culture, avait organisé un dîner de gala bien chauffé en l'honneur de Charles et Diana, avec en guest star Zizi Jeanmaire qui a descendu tout en plume le grand escalier de Chambord. Mais oui, en dansant avec ses boys.
Mon truc en plume des oiseaux, des animaux.
Allez, vous me dites, Monique, que le château de Chambord aujourd'hui, c'est incroyable, est envahi par des débordements.
Oui, débordements, c'est le titre de l'exposition qui vient d'ouvrir ses portes dans le château et son domaine de 50 hectares. On la doit à l'artiste franco-argentin Pablo Reynoso. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant je suis certaine que vous avez déjà vu quelque part ces bancs spaghettis.
Les bancs spaghettis, oui. Il n'y en a pas, dans les jardins de l'Élysée, il y en a deux, je crois.
Deux,
j'ai vu ça, un petit reportage là-dessus. Ils ont la forme des bancs publics, c'est ça ?
Exactement.
Sauf qu'aux deux extrémités du banc, pour bien être précis, c'est quoi ? C'est les lattes de bois qui se tortent, c'est un peu dans tous les sens, ça déborde, ça s'entremêle comme des...
spaghettis,
voilà.
Et dans les jardins de Chambord, vous allez pouvoir vous asseoir sur les bancs spaghettis, sauter dessus, faire des selfies en quantité. Pablo Reynoso a appelé son exposition débordement parce que tous les objets qu'il réalise débordent. Que ce soit des cadres, ils débordent. Des fontaines, elles débordent. Des chaises, hop, tout déborde tout le temps. Ça va très bien avec Chambord.
Quand on regarde le château, il ne cesse de pousser de tous les côtés, d'une manière un peu anarchique. Vous voyez, il y a constamment un décalage. Aussi bien mon œuvre que Chambord, c'est des absurdités. Chambord est un château non défensif. Ce n'est pas un château pour y vivre. Trop d'humidité, il n'y a pas les conforts. Pas les conforts de la Renaissance même. Parce que ce n'était pas fait pour ça. François Ier, il aimait chasser, il aimait dormir sous les étoiles ou sous les tentes. Et le château, pour lui, c'était un lieu de fête.
Ben voilà. Et c'est vrai qu'on voit le château de Chambord autrement, grâce à la cinquantaine d'œuvres qu'expose Pablo Reynoso, des sculptures en bois, en pierre, en métal, mais également en tissu. Et vous verrez, dans le noyau de l'escalier central à double révolution de Chambord, l'installation à double souffle. Alors, il s'agit de quelques 200 coussins équipés de ventilateurs et qui semblent comme ça respirer, inspirer inlassablement toute la journée, transformant l'escalier en une sorte de poumon gémant de Chambord.
Ah, Monique, votre Pablo Reynoso, c'est quoi finalement ? C'est quoi ? C'est un sculpteur ? C'est un designer ? Un performeur ?
Mais vous savez, il est tout à la fois, il est aussi architecte, imaginez-vous. Et surtout, il a beaucoup d'humour. Alors, comme le château de Chambord est impossible à chauffer, il a posé dans les grandes cheminées des bûches en bronze sur lesquelles les salamandres, symbole de François Ier, également en bronze, essayent de se réchauffer. Et quand un artiste réussit à transformer les contraintes d'un lieu en atout, c'est qu'il a tout simplement beaucoup, beaucoup de talent. Et vous avez jusqu'au 4 septembre pour vous rendre à Chambord, expérimenter les débordements de Pablo Reynoso.
Bah allez-y, vous avez donné envie en tout cas. J'adore ce nom, les débordements.
Les débordements.
Non, on va essayer de ne pas déborder ce soir. Laissez-vous tenter de l'été avec Laurent Marsic qui vous succède parce que lui, il a les yeux rivés devant la télé, comme d'habitude, votre petit plateau qui va bien, avec une thématique assez assez unique ce soir à la télé. C'est rare dans la programmation.
Ça arrive.
C'est la même chose partout.
Oui, exactement. On appelle ça comme les hasards de la programmation. Effectivement, ce soir, honneur à la gendarmerie nationale. D'abord, sur France 2, avec l'imbattable en général, capitaine Marlowe, dans un épisode mettant en scène ce soir Cadmerade et André Manoukian.
Daniel Rivière, don't tell me is not true. Daniel Rivière, j'en ai pleuré 148e à l'Eurovision.
Excusez-moi, c'est vraiment pas le moment. On va rester là, la police est là, elle va vous faire sortir, s'il vous plaît.
Police, on chie dedans, hein. Gendarmerie, capitaine Marlowe. Ah, c'est votre dame? Bonjour, madame.
Je suis la femme de la victime.
Oh, la chance hein, d'être proche d'une star comme ça.
Voilà, épisode diffusé en octobre 2019, à l'époque où Marlowe était encore sur France 3 le mardi soir. Et cet épisode avait réuni plus de 6 700 000 téléspectateurs, ce qui était évidemment beaucoup. Face à Marlowe, je vous le donne en mille.
Des gendarmes.
Exactement. TF1 propose un nouveau numéro des touristes emmenés par Arthur. C'est une bande de célébrités en immersion chez les gendarmes, plus particulièrement à Saint-Astier, le centre de formation nationale des gendarmes. Au menu pour Titoff, Iris Mittenard, Cartman, Camissaire, Baptiste Giabiconi et Julien Arruti, des épreuves de tir, des apprentissages d'arrestation, de contrôle routier. Bon, ils font souvent les oeuvres, mais il y a quand même un joli moment lorsqu'un gendarme vient leur parler de son engagement dans la gendarmerie, esprit de groupe. Et du courage, évidemment.
Il y a un petit peu plus d'un an, mon unité est employée sur une enquête judiciaire concernant du proxénétisme. Donc on se présente au domicile, c'est au mois de décembre. Vers 7h du matin, on commence à se déployer autour du domicile. Et moi, je suis devant la porte avec deux de mes camarades. Et à partir de là, on essuie des tirs. Donc je suis touché d'une balle dans la poitrine. Et alors j'ai le gilet pare-balles. Et la seconde balle rentre dans le bras et vient dans l'épaule.
Voilà la suite de cette histoire ce soir. Les touristes en immersion dans la gendarmerie, TF1, 21h. Et d'après vous, il y a quoi sur M6?
Ils sont là, mes gendarmes préférés?
Bingo. Double ration des gendarmes de Saint-Tropez. Avec d'abord le troisième volet des aventures de Cruchot, Gerbert et les autres. Dans Le gendarme se marie, qui marquera l'arrivée de Claude Jansac pour incarner l'épouse cinématographique de Funès. Et qui avait déjà été son épouse à l'écran, notamment dans Oscar et Les Grandes Vacances. La voici, donc, campant la veuve d'un colonel, veuve séduite par un autre veuf, le maréchal des logis-chefs. Cruchot.
Une tasse de thé. Oh, un sucre. Oh, deux sucres. Oh.
La scène est géniale à voir. Le gendarme se marie.
J'ai pas compris, c'est vous avec Monique Yonnet au bureau, c'est ça?
J'ai pas compris. Le gendarme se marie, suivi du gendarme en balade rendez-vous à partir de 21h sur M6. Fin de la thématique des gendarmes. Ah. Je veux juste vous signaler pour finir sur France 5 un excellent numéro des routes de l'impossible au Venezuela, autrefois un des pays les plus riches d'Amérique du Sud grâce à ses réserves de pétrole. Aujourd'hui, c'est un des plus pauvres. Le Venezuela est empêtré dans une crise dont il ne sort pas.
On vit dans un pays qui est quasiment en ruine. C'est difficile à croire, mais au Venezuela, nous avons fait un bond en arrière dans le temps.
À cause de leur mauvaise gestion, nos dirigeants ont ruiné notre industrie pétrolière, celle qui a fait la richesse du Venezuela. Le pays s'est bâti grâce au pétrole, et ils ont tout fichu en l'air.
Les routes de l'impossible, France 5, 21h. Samedi, je vote Fort Boyard sur France 2. Et dimanche, j'ai un petit faible, c'est pour les petits, pour le film d'animation, la bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue sur W9.
J'adore. Ouais. Merci à tous les trois. Laissez-vous tenter, Steven Bellery. Merci à vous, Laurent Marsic et Monique Younes. Je vous souhaite un très très bon week-end. Un instant, restez bien avec nous. La météo arrive avec Valérie Quintin.
Allez hop.
Vous êtes bien sur RTL. Dans un instant, vos informations juste après la météo de Valérie. Donc, le journal de 19h, ce sera avec Aude Vernuccio.
RTL Soir. Renault. Et vous, vous êtes plutôt été-e-tech des mers, été-e-tech de la campagne ou été-e-tech de la montagne? À chacun son été, à chacun son e-tech. Découvrez les motorisations Renault e-tech 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable. Profitez de l'été pour découvrir Renault Captur E-Tech Hybride dans le réseau Renault partout en France et sur Renault.fr. Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun.
IKEA.
Je vais acheter de quoi me faire un petit coin bureau. À toutes.
En juillet?
J'anticipe la rentrée, il y a des offres trop cool chez IKEA.
Tu vas même pouvoir commencer à réviser cet été.
Oula, non, quand même pas.
Et oui, avec l'été des bonnes affaires IKEA, anticipez la rentrée et profitez de notre offre de crédit affectée 5 fois sans frais. Valable jusqu'au 31 décembre 2022 pour tout achat à partir de 150 et jusqu'à 10 000 euros après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Vous disposez d'un droit légal de rétractation ou du crédit pris en charge par votre magasin. Plus d'informations en magasin ou sur IKEA.fr.
À tous ceux qui aiment les abricots secs, confits, poêlés, pressés, mixés, en compote, en confiture, en sorbet, dans une salade de fruits, en sirop, en coulis ou dans la tarte de leur mamie. Bref, vous avez compris. À ceux qui aiment les abricots sous toutes leurs formes.
En ce moment, Intermarché propose les abricots origine France à 2,59€ le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 45-50, catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur intermarché.com.
Juste avant 19h, votre météo, le retour de Valérie Quintin et Valérie pour ce week-end. Allez, on oublie un petit peu ces fortes chaleurs.
Un rafraîchissement lié aux gros orages que nous avons ce soir dans le Massif central. Notamment, les températures vont baisser drastiquement. Demain matin, les Ardennes vont se réveiller avec 8 degrés seulement au compteur, encore 25 degrés en Roussillon. La matinée sera ensoleillée partout en France. Peut-être un tout petit peu plus de nuages près des Pyrénées ou encore près des Alpes. Dans l'après-midi, place aux orages à nouveau en montagne, seulement sur les Alpes et sur les Pyrénées. Plein soleil partout ailleurs, avec du vent dans le midi puisque le Mistral soufflera à 60 km/h en pointe. Et on aura un petit vent de secteur nord sur la moitié nord du pays, ce qui va permettre aux températures d'être un petit peu plus raisonnables que ces derniers jours. On aura 22 degrés à Calais dans la journée, 24 à Maubeuge, 27 degrés à Paris, à Rennes et à Colmar, comptez 32 degrés à Ajaccio, à Lyon, à Toulouse et 36 degrés à Cahors et Perpignan.
Cérélis Méno, complément alimentaire contre les bouffées de chaleur et la fatigue de la ménopause. Cérélis Méno, votre solution naturelle non hormonale. Pour votre santé, bougez plus.
RTL. Tout pile 19h.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
Et le grand journal de 19h vous est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Avec à la une sécheresse historique en France, robinet et cours d'eau à sec dans une centaine de communes.
La première ministre déclenche une cellule de crise interministérielle. On en parle dès le début de ce journal. Après la chaleur, cet orage diluvien dans le Cantal, le déluge pendant 2 heures. Et puis du foot, retour de la Ligue 1 ce soir avec OL Ajaccio.
RTL Soir.
Le journal Christophe Paco, Aude Vernuccio.
Et donc face à cette sécheresse historique en France, ce sont les mots de la Première ministre. Elisabeth Borne active la cellule interministérielle de crise. Situation préoccupante dans une centaine de communes, des canalisations vides et plus d'eau au robinet. Bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
Concrètement, elle consiste en quoi cette cellule ?
Alors à prévoir tout, même le pire, puisque cellule de crise, ça n'est pas juste un nom, c'est un lieu aussi. Place Beauvau, 800 mètres carrés de plateau technique sécurisé avec écran, ordinateur et tout ce qui permet mieux coordonner l'action des autorités publiques et puis de faire remonter l'information en un lieu unique, 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais là-bas. Pour la sécheresse, vous imaginez tout de suite l'intérêt, mobiliser les préfets, les acteurs départementaux, prévoir les scénarios les plus noirs si les fortes chaleurs durent, imposer de nouvelles restrictions, anticiper l'acheminement de l'eau, notamment si le nombre de communes sans eau potable se multiplie dans les jours qui viennent. Alors pour l'instant, ce sont des réunions essentiellement techniques avec des représentants de tous les ministères concernés, mais ce n'est pas un conseil des ministres bis, hein. Il n'y avait pas de membres de gouvernement ce matin. Les ministres, on leur demande surtout d'aller sur le terrain pour l'instant pour aller constater la situation de leurs yeux et puis surtout montrer aux Français que le gouvernement ne prend pas la situation à la légère.
Merci pour ces précisions, Vincent Derosier du service politique de RTL.
Et justement, Virginie Garin, notre spécialiste qualité de la vie, nous le disait tout à l'heure dans le journal de 18h, cette sécheresse elle a des conséquences concrètes également sur l'agriculture, pas assez d'eau pour les cultures et donc pour les animaux. Dans le détail, 93 départements font l'objet de restrictions, dont 62 Aude considérées en crise.
C'est le niveau d'alerte le plus élevé. Pas de lavage de voiture ni d'arrosage du jardin sous peine d'amende. Valentin Boisset, vous avez suivi une patrouille de la police de l'environnement dans les Yvelines.
Sur le siège passager, les jumelles de Cécile sont rivées sur un domaine équestre.
On observe un petit peu pendant qu'on circule.
Donc la voiture siglée ralentit devant un champ qui est manifestement plus vert.
Une carrière pour les chevaux, des zones qui ne doivent pas normalement être arrosées.
À sa hanche, l'agent porte une arme, c'est une policière de l'environnement. L'accueil est parfois musclé. Dès qu'elle constate des surfaces plus vertes, la voiture s'arrête.
On a une vue un petit peu d'ensemble du site.
Elle se gare donc près d'un golf.
On va aller prendre contact avec le responsable du site.
La règle est simple pour ce professionnel, il doit diminuer de 70% son utilisation d'eau.
Non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors on n'arrose pas tout. On est sur un golf qui fait 105 hectares.
Il doit ensuite montrer tous les registres d'arrosage. Il n'aura pas de contravention. Les professionnels risquent 7000 euros d'amende en cas de manquement, puis quelques kilomètres après le golf.
Donc là, on est sur une station de lavage de véhicules. On constate qu'il n'y a pas d'affichage pour prévenir les particuliers qu'il y a cette interdiction en cours.
Le gérant, absent, est donc rappelé à l'ordre cette fois-ci par téléphone.
Le reportage de Valentin Boisset dans les Yvelines pour RTL. Les terrains de golf sont eux aussi priés de réduire leur consommation d'eau. Le golf de Palmola, Buzet-sur-Tarn, a choisi l'éco-responsabilité. Oui, le directeur n'arrose plus que 3 des 35 hectares du domaine. Patrick Hisson, pas question d'avoir un green vert fluo en pleine sécheresse.
Voilà 3 semaines maintenant que 95% de la surface du golf n'est plus arrosée. Ce n'est pourtant pas une obligation, mais une démarche éco-responsable pour le directeur Guillaume Sajus.
Nous avons souhaité, nous, essayer de préserver la ressource en eau, de stopper notre arrosage sur toutes ces zones de transition de trous, les fairways, justement pour montrer que nous faisons également des efforts.
Et donc désormais, c'est le jeune qui remplace le vert sur la majorité du parcours. Karine Mathieu est professeure de golf à Buzet-sur-Tarn.
Ça me fait bizarre, mais je trouve ça logique. Et ça me paraît normal que les agriculteurs puissent arroser leurs champs plus que nous, arroser nos fairways pour notre confort. Donc déjà, on arrive à arroser les départs et les greens. Pour moi, c'est essentiel.
En raison de cette situation, mais aussi de la chaleur, la baisse de la fréquentation est de 20%. Mais pas de quoi décourager le directeur du golf de Palmola.
Il faut savoir que dans le sol, il y a beaucoup de graines en dormance qui vont justement pouvoir revivre dès les premières pluies, quand l'épisode de canicule sera passé.
À l'avenir, ce golf envisage également d'utiliser des variétés de graminées capables de mieux résister aux épisodes de sécheresse à répétition.
Reportage signé Patrick Hisson dans le Tarn pour RTL. Et pour connaître les départements touchés par les restrictions, vous pouvez regarder quand vous le souhaitez sur le site internet la carte des endroits touchés, propluvia.fr, c'est le nom du site, propluvia.fr.
On en revient à ce violent orage qui s'est abattu dans le Cantal. 71 mm de pluie en moins de 2 heures selon Météo France, avec même de la grêle. Trafic difficile ce soir sur la 75. François-Xavier Lambert a joint Sarah de l'Office de tourisme de Saint-Flour il y a quelques minutes et peu avant 18h, elle le dit. Le déluge.
Ça a commencé avec un petit peu de pluie et puis après la grêle est tombée bien comme il faut, on va dire, en quantité. Ça a été des gros grêlons, presque des balles de golf. Hein. Et après, ça a duré quasiment une heure. Alors il y a des vitres qui ont cassé, il me semble. Au niveau pluie, ça a été, ça a été en quantité et très très fort. Hein.
Propos recueillis par François-Xavier Lambert.
19h06 et cette image aux États-Unis. Imaginez la foudre qui frappe juste devant la Maison Blanche.
Il y avait un risque sur 1 million d'être touché. Un violent orage, là aussi, s'est abattu sur Washington hier soir. Et la foudre a frappé à quelques mètres des grilles, faisant 2 morts et 2 blessés graves. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis.
Oui, d'habitude, les victimes de la foudre ne font pas les gros titres des journaux télévisés, mais quand elles meurent devant les grilles de la Maison Blanche, l'information prend une autre dimension. Une caméra de surveillance a capté l'image saisissante de l'éclair qui semble s'abattre sur le bâtiment présidentiel. Ce témoin interrogé par CNN était juste à côté et il est choqué.
On a entendu un gros boom, c'était irréel. Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. J'ai essayé de faire un massage cardiaque à l'une des victimes avec un autre passant.
Les pompiers sont intervenus rapidement et même le Secret Service chargé de la protection présidentielle. Malgré les soins, 2 personnes sont mortes. Un couple de septuagénaires venus du Wisconsin. Ils s'étaient visiblement réfugiés sous un arbre, ce qui est fortement déconseillé en cas d'orage. Chaque année, il y a une 20aine de morts dues à la foudre aux États-Unis. 2 autres personnes ont été sérieusement blessées hier soir. La Maison Blanche a présenté ses condoléances aux familles des victimes.
Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis.
On marque une très courte pause et ensuite Gérald Darmanin qui réclame l'expulsion d'un imam marocain. Il porte l'affaire jusque devant le Conseil d'État.
RTL Soir.
Burger King.
Alors c'était bien chez Burger King?
Super, mais alors impossible de se rappeler le nom du menu. Oh, c'est pas vrai, ça recommence. Léo.
Ah oui, c'est le menu.
Mais si, tu sais, le menu enfant à 4 euros là.
Ah oui, le menu.
Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète King Junior, avec un burger, un accompagnement, une boisson, un dessert et un jouet, est à seulement 4 euros. Menu King Junior avec jouet à 4 euros, prix conseillé. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Burger King!
À tous ceux qui ont la meilleure technique pour allumer un barbecue. À ceux qui commencent toujours avec du petit bois. Enfin, qui commencent en disant aux enfants d'aller chercher du petit bois. À ceux qui soufflent doucement sur les braises et qui ont les sourcils à moitié grillés. Et à ceux qui trichent en utilisant l'allume-feu. Non, je critique pas, mais moi perso, j'utilise des silex. En ce moment, Intermarché propose le kilo de chipolata nature aux herbes ou merguez à seulement 6,49€. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Chipolata origine France, merguez transformée en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
Et la suite de votre journal avec Aude Vernuccio. Et cette affaire qui embarrasse le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin réclame l'expulsion d'un imam marocain au prêche controversé.
Le ministre de l'Intérieur qui va saisir le Conseil d'État, la juridiction la plus haute, car le tribunal administratif a suspendu aujourd'hui l'arrêté d'expulsion. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Ça veut dire que cet imam, il a le droit de rester en France ?
Absolument, car le tribunal administratif a balayé en partie les accusations de Gérald Darmanin. Hassan Issi-Houken n'a jamais fait la promotion du séparatisme. En tout cas, les juges n'en ont trouvé aucune preuve. Le prédicateur a bien tenu des propos antisémites jusqu'en 2014, mais il a fait volte-face dans sa dernière vidéo sur le sujet en 2015. Il condamne finalement l'antisémitisme. Reste que l'imam a dit récemment que la place des femmes est en cuisine. Là, aucun doute, c'est bien discriminant, mais cela ne suffit pas, selon le tribunal, à justifier l'expulsion d'un homme né et résident en France. En fait, tout est question de proportion ici, comme le rappelle Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme.
Il est évident qu'il faut poursuivre ses propos, mais ça, c'est du ressort du code pénal. Alors, lorsque ces propos sont tenus par des personnes de nationalité étrangère et que vraiment il y a une violence, une incitation à la haine qui peut comporter des risques pour l'ordre public, à ce moment-là, on peut passer à une étape autre. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure.
La Ligue des droits de l'homme qui a soutenu l'imam dans cette procédure et soupçonne une instrumentalisation politique de l'affaire par le ministre de l'Intérieur. La plus haute juridiction, le Conseil d'État, va désormais devoir trancher.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. Également à retenir ce soir, 4 ans après les attentats de Trèbes et Carcassonne, le parquet antiterroriste a requis le renvoi de 7 personnes devant la cour d'assises spéciale. Attaque qui avait fait 4 morts, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, le gendarme qui s'était livré comme otage à la place d'une femme.
À 19h10 sur RTL Les Sports, Aude, on va passer au football avec le grand retour ce soir de la Ligue 1.
Et c'est l'OL qui ouvre le bal cette saison. Les Lyonnais affrontent ce soir Ajaccio à 21h. Raphaël Vantard, vous êtes devant le Groupama Stadium pour RTL. Des Lyonnais très attendus après une saison, on peut le dire, chaotique.
Oui, parce qu'avec le deuxième budget de Ligue 1, le rachat du club par le milliardaire américain John Textor, l'Olympique Lyonnais ne peut pas se permettre de refaire une saison en demi-teinte sans Coupe d'Europe au bout. Pour ce faire, le club a investi avec les retours d'Alexandre Lacazette en attaque, de Corentin Tolisso, le champion du monde au milieu de terrain. Des recrues qui seront normalement alignées ce soir pour la plus grande joie des supporters lyonnais.
Ah bien, cette année on a beaucoup d'espoir. Ouais. On espère que ça va être une bonne saison. Bah, avec les retours de Lacazette, de Tolisso, de... Le coach qui a un an d'expérience de plus, donc on espère que ça va être mieux. Quoi.
Ça serait quoi pour vous une saison réussie ?
Le podium, minimum le podium, deuxième place, et puis on ne sait jamais, hein, pourquoi pas plus.
Voilà, le tonnerre et l'orage que vous entendiez au moment de l'interview se sont un petit peu calmés, mais l'ambiance promet quand même d'être électrique. Plus de 50 000 personnes sont attendues ce soir au Groupama Stadium. C'est assez rare, autant de monde en plein mois d'août à Lyon. Ça laisse présager une très belle soirée ici pour ce tout premier match de la Ligue.
C'est bien, tout ça, c'est
Raphaël
bien.
Vantard à Lyon pour RTL. Match à suivre, évidemment.
Bah, RTL Foot.
Des
20h jusqu'à...
Avec Eric Silvestro.
23h, bien sûr, grande soirée. On lève les yeux.